Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour partager ce temps dans la présence de Dieu et nous voulons prier pour recommander l'écoute de la parole de Dieu. Prions pour que le Seigneur nous dirige et nous conduise au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. Et nous prions pour que tu te révèles à nous, Seigneur, que nous puissions te connaître, Seigneur, tel que tu es réellement, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu vivant, le Dieu sauveur, Seigneur. Merci d'agir et merci de te manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Donc c'est... La lettre, c'est la lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2. Donc il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Verset 1er. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. « Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Voilà la lettre que le Seigneur adresse à cette église d'Éphèse et nous savons que ces lettres écrites aux églises sont adressées aussi à chaque chrétien. Et le Seigneur dit à cette église, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, ceux qui sont faux. Tu as fait ce travail en profondeur, mais ce que j'ai contre toi, c'est que malgré que tu ne te sois pas lassé de faire ce travail, tu as abandonné, verset 4, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Le thème de notre étude de ce soir, c'est une pause sur les motivations de nos cœurs. En fait, ce que le Seigneur reproche à cette église, c'est que les priorités, les motivations du cœur ont changé. Donc lorsqu'on lit ce qu'on voit, on voit que c'est une église qui a été fidèle au Seigneur, qui a été fidèle dans le service, qui a été fidèle dans le témoignage, qui a été fidèle dans la persévérance, qui a été fidèle dans la vérité, dans la droiture, qui a été fidèle dans le fait d'éprouver même ceux qui sont faux. Et on n'a pas lu, on dit... Même au verset 6, on n'a pas lu, tu as haï les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres que je hais aussi. Les Nicolaïtes, c'était des gens qui apportaient une doctrine disant que la grâce est là, donc vivons, parce que la grâce est là de toutes les façons. Vous voyez, c'est le débat qu'il y a encore aujourd'hui parmi les chrétiens. Si nous sommes dans le temps de la grâce, dans ce cas-là, profitons alors du temps de la grâce. Certains disent, bon, on pêche, on demande pardon, c'est le temps de la grâce, mais c'est mal comprendre. Et le Seigneur dit, tu as rejeter les œuvres des Nicolaïtes qui, finalement, viennent avec des enseignements pernicieux et tu as résisté à ces gens-là. Et le Seigneur dit, moi aussi, je hais les œuvres de ces hommes-là. Mais le Seigneur dit quelque chose. Ce que j'ai contre toi, c'est que les motivations ne sont plus bonnes. Les motivations ne sont plus les mêmes. L'amour que tu avais autrefois pour moi, quand tu faisais les choses par amour, aujourd'hui, les choses ont changé. Bien-aimé, le thème de notre partage, c'est les motivations de nos cœurs. Et avant que j'oublie, notre prière, c'est le psaume 139 que David fait à Dieu, versets 23 à 24, où il dit « Seigneur, tu me connais, tu connais mon cœur, sonde-moi, éprouve-moi. » Bien-aimé, c'est ça le travail de notre étude d'aujourd'hui, c'est de vérifier au fond de nous-mêmes. Vous savez, la pensée du jour qu'on a envoyée ce matin, ça va dans le sens de l'étude de ce soir. C'est que beaucoup sont devenus, on a employé le terme coquille vide, c'est-à-dire que l'extérieur donne l'apparence de quelque chose, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Quand on parle de motivation du cœur, on parle de l'amour pour le Seigneur. Quand on parle de motivation du cœur, on parle de la passion, faire les choses par amour pour Dieu. Et nous allons voir tout au long de ce temps qu'il est possible, premièrement, de faire beaucoup d'exploits, mais sans que les motivations du cœur soient celles de Dieu. Donc notre prière aujourd'hui, donc je dis déjà l'objectif voilà, de ce temps, notre prière aujourd'hui c'est bien aimé, disons Seigneur, donne-moi l'amour pour toi. Disons au Seigneur, Seigneur, que tes pensées deviennent mes pensées. Vous savez, dans Ésaïe 55, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Il dit qu'il y a une séparation, il y a une différence entre les deux. Et l'objectif de ce soir, c'est dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons que tes objectifs soient les nôtres, que tes pensées soient les nôtres, que tes désirs à toi soient les nôtres. Vous voyez cette église qui est louée d'une certaine manière par le Seigneur pour toutes les belles choses qu'elle fait, pour toutes les bonnes choses qu'elle fait, qu'elle produit. Mais lorsque nous lisons, nous voyons, comme le Seigneur a dit, vous savez, dans Jérémie 17, il dit que moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire que quelqu'un peut produire un acte qui est bénéfique, qui est beau, qui est louable, qui est admirable, mais le Seigneur, lui, il voit le fond. Et c'est ça qui compte, bien-aimé. Nous lisons 1 Corinthiens 13 et nous rappelons que s'il y a des interventions, s'il y a des questions ou des commentaires, on peut se manifester par les canaux habituels. Mais bien-aimé, l'étude d'aujourd'hui, c'est quelles sont les motivations de ton cœur? Quelles sont les motivations de nos cœurs? Quel est l'état de notre cœur? C'est ça l'étude d'aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1er jusqu'au verset 7, on verra si on continue. Alors, la charité, donc l'amour, je vais vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, dans l'autre version, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Bien-aimés, on peut s'arrêter un petit peu à ce que Paul dit là. Mais c'est étonnant. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, science de tous les mystères et toute la connaissance, il dit, quand j'aurai même une foi tellement grande, forte, pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, il y a des gens qui sont prêts à se donner pour les autres, à se livrer, à se faire brûler. On a vu le printemps arabe a commencé, je crois que c'était en Tunisie, un homme qui était excédé par les différentes mesures, un vendeur ambulant qui était excédé par les différentes mesures de restriction, finalement, il s'est immolé, Et c'est ça qui a fait naître ce mouvement qui s'est répandu après dans d'autres pays. Et ici, le Seigneur nous dit qu'il est possible de faire de tels actes sans que cela ne soit motivé par Dieu. Parce que lorsqu'il parle d'amour ici, en tout cas, c'est l'amour qui vient de Dieu. Parce que là, il y a l'amour humain qui est lié à des sentiments, mais qui est lié aussi à des calculs. C'est-à-dire que je fais quelque chose en espérant recevoir quelque chose d'autre. Vous savez, les enseignements de base, la leçon 8, on parle de trois sortes d'amour. Et on parle de l'amour agapé, ou l'amour de Dieu. C'est-à-dire que c'est un amour désintéressé. Donc il y a d'autres sortes d'amour aussi. Il y a des amours humains, mais qui sont liés à des intérêts, à des résultats, à du donnant-donnant, 50-50, 50-50, à un échange, je te donne ceci, tu me donnes cela en retour. Je t'aide, j'espère en retour avoir, recevoir l'appareil. C'est possible, c'est une réalité. Jusque même à se faire mourir. C'est une réalité, ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit l'amour, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Bien-aimé, bien souvent, quand l'humain fait des choix, c'est par intérêt. Et vous savez, nous avons été élevés, éduqués comme ça. Tu vas faire des études, tu vas choisir des études en fonction de ce que tu aimes, mais parfois aussi en fonction de ce que ça te rapporte. Si je prends telle filière, en début de carrière, je vais gagner combien ? En fin de carrière, je gagnerai combien ? Si je prends telle branche, si je fais telles études, on ne fait pas seulement les choses par, comme on dirait autrefois, par vocation. Oui, il y en a qui le font encore par vocation, mais en réalité, beaucoup, cette vocation-là aujourd'hui même, elle est soutenue par un attrait aussi. Comme certains disent, je ne veux pas travailler pour la gloire. Surtout les fonctionnaires, ils sont champions pour cette phrase-là. Pourtant, je ne vais pas me faire les ennemis, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chacun a ses intérêts. Moi, je vois certains qui travaillent, ils dépassent d'une demi-heure. Ah, ils notent la demi-heure. Ah, non, moi, je ne me fais pas avoir, hein, Jean-Luc. Hein. Ah, non. Moi, ma demi-heure, elle doit être payée. Hein. Ou alors, compensation repos. Donc, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant avec l'employeur. Alors quand toi tu vas lui dire, mais c'est cadeau, il va dire, quoi? Pour tout ce que j'ai donné comme cadeau, je n'ai pas eu de retour. Eh bien, il n'y a plus de cadeau, bien aimé. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Et l'exhortation d'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, c'est quelles sont les motivations de nos cœurs. Quel est l'état de nos cœurs? Aujourd'hui, nous sommes mardi. Tu viens à l'étude biblique? Est-ce que tu viens à l'étude biblique parce que c'est mardi? Est-ce que tu viens à l'étude biblique parce que c'est le programme qui est établi comme ça? Est-ce que tu viens à l'étude biblique parce que c'est toi qui es prévu de travailler aussi? Bien-aimé, combien on ne voit pas quand ils ne sont pas prévus, ils ne viennent pas? Bien-aimé, c'est de ça que je parle, les motivations de nos cœurs. Il y a des gens, quand il est prévu, il sait qu'il sera là pour faire tel travail à l'accueil ou à la caméra ou je ne sais pas moi où. Ben, il vient parce qu'il est prévu. Et quand il voit qu'il y a tout le monde qui est là, l'équipe est au complet, il dit, bon, allez, moi, je peux rester chez moi. La question maintenant, par rapport à aujourd'hui, ce thème, c'est, est-ce que tu viens pour le programme? Est-ce que tu viens pour le pasteur? Ou est-ce que tu viens pour adorer Dieu? C'est ça la question, bien-aimé. Quelles sont tes motivations? En fonction de tes motivations, tu donneras aussi la bonne réponse, bien-aimé. C'est cela. Si ta motivation, c'est adorer Dieu, alors tu comprendras que l'adoration à Dieu n'est pas liée à ta condition. Vous savez, des fois, tu es à la maison, tu es tellement bien, surtout en ce moment où il pleut tout le temps. Il faut du courage pour sortir. Il faut du courage pour prendre le bus. Il faut du courage pour prendre sa voiture. Tu es tellement tranquille à la maison. Mais quand tu considères que il faut qu'on me voie travailler, il faut que je sois là, parce que si je ne suis pas là... Vous savez, il y a des gens qui viennent au culte. Ils disent, mais je viens parce que si je ne viens pas, le frère va m'appeler pour savoir. Ah bon? Tu viens pour le Seigneur? Tu viens pour adorer Dieu? Ou tu viens pour quelqu'un, pour un humain, bien-aimé? C'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Quelles sont les motivations de nos cœurs? Vous savez, bien-aimé, Dieu nous aime. Vous voyez la lettre qu'il écrit à l'église d'Éphèse. Peut-être que l'église d'Éphèse n'était pas consciente de son état. Mais mon premier point, c'est que Dieu va révéler l'état de nos cœurs. Dieu va faire sortir ce qu'il y a dans nos cœurs. Je donne un exemple. Hein. Confinement, maître confinement, grand maître confinement. On a vu qui était le grand maître. Hein. Là, c'était le choix entre Dieu et le confinement. Je peux vous dire que derrière le confinement, beaucoup de chrétiens je cherche l'expression, je ne trouve pas. En tout cas, se sont reposés derrière. Le confinement. Ah, moi, je ne peux pas me réunir parce que je suis personne fragile. Bon, bien aimé, je ne suis pas en train de dire que celui qui a fait ça n'est pas... Je ne sais, c'est pas ça que je dis. Mais la Bible dit dans Matthieu 26, 41, que l'esprit est bien disposé et la chair est faible. C'est une réalité, c'est écrit, la chair est faible. Donc tout ce qui est lié à Dieu, bien-aimé, la chair ne voudra pas. L'apôtre Paul le dit dans Galates 5, que les œuvres, la volonté de Dieu, le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair, la nature de la chair, sont opposées. C'est une réalité, bien-aimé. C'est une réalité. Et on a vu pendant le confinement que beaucoup, finalement, et même jusqu'à aujourd'hui, certains ont peut-être même vacillé par rapport à leur foi. Quand je parle de ça, bien-aimé, je ne parle pas de Bethléem seulement. Je parle de ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir des plusieurs assemblées. C'est que l'enthousiasme qu'il y avait avant, tous ces événements-là, 2018, 2019 passe par là, 2020, et aujourd'hui 2021, quand vous posez la question, ils vont vous dire, les choses ont changé. Il n'y a plus le même enthousiasme. Et là encore, on nous met la pression pour dire, bon, variant Delta, ceci, cela. Donc les gens se disent, ah, peut-être que on va encore interdire les rassembler. Peut-être que, bien aimé, la question d'aujourd'hui, c'est quelles sont les motivations de ton cœur? C'est à toi de répondre à cette question-là. Tu peux dire, oui, mais toi, tu me juges, mais moi, j'aime Dieu, mais non, c'est pas question de... Non, vous savez, comme j'ai dit en introduction, on va le lire après. David dit, Seigneur, sonde-moi. Et l'apôtre Paul dira que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que Dieu recommande. Parce que Dieu, lui, il juge selon la vérité. Il ne juge pas selon les apparences. C'est ça la réalité, bien-aimé. Dieu juge selon la vérité. Beaucoup qui étaient zélés. Beaucoup qui faisaient des choses, qui entreprenaient des choses. Mais aujourd'hui, le feu n'est plus le même. Le désir n'est plus le même. L'entrain n'est plus le même. Vous savez, quand quelque chose vient de Dieu, c'est Dieu qui maintient ça. Je ne dis pas qu'en tant qu'humain, on saura toujours, on aura une vie linéaire. Quoique oui, par l'Esprit de Dieu. Puisque l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons non par la vue, mais par la foi. À partir de ce moment-là, l'apôtre Paul dit, même si moi je suis lié, l'évangile est libre. Donc je continue à annoncer l'évangile, quel que soit mon état. Je continue parce que ma motivation à moi, ce n'est pas... Vous savez, Paul lui-même, il dit quoi? Il dit, je ne prêche pas qui? Je ne prêche pas moi-même. C'est qui que je prêche? C'est Jésus. Et puisque c'est Jésus que je prêche, Jésus peut permettre que je sois dans une situation peu flatteuse, mais je continue. Vous savez, je me rappelle d'une sœur qui avait 88 ans, qui est décédée, et vers la fin, elle avait beaucoup de problèmes de santé, et souvent hospitalisée. Elle me disait, à chaque fois que le médecin entrait, elle bombardait, elle parlait de Jésus. Elle parle de Jésus, mais vous, monsieur, si vous mourrez aujourd'hui, c'est l'enfer qui vous attend. Mais elle était tellement insistante. Mais en même temps, elle souffrait. Elle dit, mais pourquoi je souffre comme ça? Moi, je disais, mais le Seigneur permet ça pour que tu parles. Parce que qui aura ce courage-là que toi, tu as de parler au médecin? Vous savez, quand on n'a que Dieu pour motivation, on ne regarde plus à nos intérêts, à nous humains. On ne se dit plus qu'est-ce que l'autre va penser. Puisque tout ce qui compte, c'est que la personne entende la bonne nouvelle. Entende le salut de Jésus-Christ. Entende, l'apôtre Paul le dit. Dans Romains 16, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte. Et souvent, la honte vient parce qu'on n'a pas envie de se retrouver en situation de marginalisation, où on nous marginalise, où on nous dit, oh, mais cette personne-là, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Cette personne-là n'est pas normale, elle est incohérente dans ses propos. Alors cette sœur-là, elle, quand elle allait à l'hôpital comme ça, elle parlait du Seigneur. Et parfois, le médecin lui disait, mais madame, regardez l'état dans lequel vous êtes. Elle dit, oui. Le Seigneur permet ça, mais il permet que j'entre ici pour vous parler à tous. Bien-aimés, c'est cela. La question aujourd'hui, c'est quelles sont les motivations de nos cœurs? Je ne prêche pas moi-même, c'est Jésus-Christ que je prêche. Il dit à Timothée, prêche en toute occasion. Toujours favorable. C'est ça qu'il dit? Favorable ou non? Mais nous, on veut prêcher quand c'est favorable. Il y a le micro, tu as un auditoire qui est acquis à ta cause, tu arrives. Bien-aimé, il y a des endroits où tu arrives, tout le monde est païen. Déjà, on te présente, on dit, ah, le monsieur, les gens te regardent mal. Parce qu'ils savent déjà ce que tu vas dire. Et ils te font connaître, ils te font savoir que tu n'es pas le bienvenu. C'est ça la réalité, bien-aimé. Et là, il n'y a personne. Mais là, quand il faut aller dans Bethel Church, je ne sais pas moi, Vineyard Church, où il y a 10 000, 100 000 personnes, ah, là, les gens, ils aiment bien. Parce qu'en même temps, on fait d'une pierre deux coups, ça fait du buzz, on met sur Internet, on voit, ah, tel était à tel endroit. C'est cela, bien-aimé. Quelles sont les motivations de nos cœurs? Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à faire ce travail d'introspection, à vérifier. Dans ce que je le fais pour moi, je le fais pour retirer quelque chose, je le fais pour glorifier Dieu. Quelles sont mes motivations? Bien-aimés, faisons cette pause-là. Méditons. Qu'est-ce qui fait que beaucoup peuvent manifester une attitude légère le temps du culte? Il vient au culte, il va faire des courses. Donc finalement, l'église est devenue même parfois, l'assemblée est devenue une garderie où je laisse les enfants, je vais faire deux, trois courses, je vais au téléphone, pendant le temps du culte, j'ai calculé, bon, ça finit à telle heure, bon, comme ça je serai bien aimé. Comme on a dit tout à l'heure, on doit se dire, c'est le temps qui est consacré au Seigneur, je vais au rendez-vous avec le Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Car là est le Seigneur présent, mais aussi sont réunis mes frères et mes amis. Quand tu viens dans cet état d'esprit-là, tu ne t'attends pas à être soutenu. Tu ne viens pas parce qu'il y a ton ami qui sera présent. Certains même, on lui dit, bon, moi je ne peux pas venir. Ah bon, moi aussi, alors je ne viens pas. Mais non. Notre relation avec Dieu est une relation personnelle. Et c'est ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il est possible d'avoir du zèle, de manifester. Et Jacques en parle dans Jacques 3. Manifester une forme de zèle, mais en réalité, ce n'est pas le zèle qui vient du Seigneur. Et les motivations ne sont pas celles de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Nous allons voir quelques exemples. Et il y a le micro pour les questions là. Je veux poser la question, hein, je veux faire passer. Quelles peuvent être les motivations qui peuvent pousser quelqu'un à œuvrer pour le Seigneur? C'est une question qui est ouverte. Si on peut faire passer le micro, celui qui veut. Je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce que la question est claire? Un peu? Quelles peuvent être les motivations qui poussent quelqu'un à œuvrer pour le Seigneur? Il y a des motivations, il y en a beaucoup. Et la Bible montre qu'il y a beaucoup d'exemples. Mais est-ce que quelqu'un peut citer et puis dire pourquoi il cite ce qu'il dit là?
Quelques motivations que je peux citer qui emmèneraient une personne à servir le Seigneur, c'est déjà la reconnaissance de qui on est vis-à-vis de Dieu, la foi aussi, et j'ai envie de dire l'humilité, parce que dans la reconnaissance, il y a aussi l'humilité. Quand tu te sens petit devant Dieu, quand tu sais que c'est lui qui pardonne tes iniquités, comme David le dit souvent, tu te dis, ma vie ne suffirait pas, mais je peux quand même faire quelque chose en reconnaissance à ce Dieu-là qui est mon tout, en fait.
Bon, là, on est resté dans le positif. Hein. Il y a aussi des motivations qui sont aussi négatives. Et on le verra. Mais
oui, c'est juste pour compléter, il a tout donné pour nous et par amour, on ne peut pas faire autrement que répondre en lui donnant tout.
D'accord. Donner tout au Seigneur par amour.
On peut aussi servir le Seigneur pour gagner son salut.
C'est-à-dire?
On pense que en travaillant pour lui, on va gagner notre salut.
D'accord. Donc là, on est dans une logique des œuvres. Donc on pense que, et c'est, donc Éphésiens 2 répond à ça en disant que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et non par les œuvres. Mais ce qu'on cite là, bien aimé, c'est, ça paraît comme ça théorique, mais c'est une réalité. C'est une réalité que dans le fonctionnement en tant qu'humain, parce que l'homme fonctionne toujours dans cette logique de mérite. C'est pour ça qu'on a du mal à accepter la grâce de Dieu. Parce qu'on pense que plus on fait des choses, plus Dieu sera, bon, amadoué. C'est ça qu'on pense. Vous savez, c'est comme au travail. C'est comme dans le sport, quelqu'un qui est un très bon joueur, s'il est incontournable pour l'équipe, souvent ce sont ces bons joueurs-là qui sont au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'il va louper des entraînements. Il va parfois venir en retard, tout le monde aura une pénalité s'il fait ça. Mais lui, puisqu'il est incontournable, bon, on va faire des aménagements parce qu'on se dit qu'il donne beaucoup. Mais Dieu ne fonctionne pas dans cette logique-là. Dieu, il fonctionne vraiment dans la logique de la grâce et nous servons le Seigneur parce qu'il nous a aimés. Non pas parce que nous faisons beaucoup de choses. Et qui peut faire des choses qui vont impressionner le Seigneur? Oui, il y a une intervention.
On peut aussi servir le Seigneur pour des raisons de business.
Oui, pour des raisons de business.
Oui.
C'est-à-dire, oui.
Oui, pour gagner de l'argent. C'est aujourd'hui, on peut servir le Seigneur en utilisant des théories marketing pour faire payer des sommes faramineuses aux personnes ou aussi pour se faire remarquer. On sait aujourd'hui que même si on ne peut pas coller cette étiquette à tous les hommes de Dieu, on ne peut pas aussi se voiler la face en disant que beaucoup, grâce au nom de Jésus, se sont fait un nom, se sont fait aussi des places dans la société. Aujourd'hui, on a des chefs d'État auxquels on peut accéder juste en parlant de Jésus, surtout dans nos pays en Afrique. C'est monnaie courante, donc on peut servir le Seigneur aussi pour faire du business, pour sortir d'une certaine misère.
C'est vrai, c'est vrai. C'est un point que j'avais noté, c'est un des points, c'est l'intérêt personnel. C'est-à-dire que beaucoup peuvent servir le Seigneur par intérêt personnel. C'est-à-dire qu'ils ont leurs objectifs, ils ont leurs projets à eux. Et finalement, Dieu vient aider à concrétiser ce projet-là. Dieu, c'est comme une marque qu'ils utilisent pour arriver à leur fin. Donc, de parler de Dieu, ils savent que il y a d'une certaine manière un auditoire, enfin il y a une certaine, il y a un auditoire qui est acquis à la cause et ils vont avoir de la notoriété. Donc s'il peut être avoir et fort, avoir la puissance, mais en même temps s'enrichir, bah ils vont le faire. Et l'apôtre Paul en parle quand il parle des serviteurs, des ouvriers, des gens qui servent leur propre ventre, qui ne servent pas le Seigneur. C'est une réalité, bien aimée. Et nous allons lire Matthieu. Donc nous, on va s'arrêter vraiment sur le Seigneur Jésus. Matthieu 4. Il y a une question, oui, pardon.
Ouais. Oui, il y a deux questions Internet. Donc la première, puisque c'est Dieu qui met de l'amour dans nos cœurs, ça voudrait dire que les chrétiens qui n'ont pas l'amour ne sont pas convertis?
Puisque c'est... Non, c'est pas qu'ils sont... Non, c'est-à-dire que le but de l'exhortation d'aujourd'hui, c'est nous dire que nous, tous les jours, nous devons chercher à être en communion avec le Seigneur. Ça rejoint vraiment la pensée du jour de ce matin. Pourtant, ce n'est pas de concertation, mais c'est pour nous dire que l'amour que tu as pour le Seigneur aujourd'hui, attention, demain, ça ne veut pas dire que tu auras le même amour pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas converti. Tu peux être converti aujourd'hui, mais l'amour que tu as pour le Seigneur aujourd'hui ne garantit pas l'amour que tu auras pour le Seigneur dans 10 ans. Pourquoi? Parce que, regardez un peu l'histoire de Salomon. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Salomon. Quand Salomon, dans 1 Roi au chapitre 3, quand Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux », vous savez ce que Salomon demande? Il demande à Dieu « Seigneur, qui suis-je moi? Moi, je ne suis rien. Je suis le fils de ton serviteur David. Mais regarde, tu me donnes cette responsabilité pour diriger un peuple nombreux. Alors donne-moi la sagesse pour pouvoir juger, parce que le rôle du roi à l'époque, il était aussi juge. Il dit, donne-moi l'intelligence, la sagesse, pour pouvoir m'occuper de ton troupeau, de ton peuple. Et Dieu regarde Salomon et dit, ah bon, mais c'est étonnant, tu ne me demandes que ça. Je pensais que tu allais me demander la mort de tes ennemis. Bien-aimé, vous voyez, cette prière que Salomon fait là, il est écrit, hein, cette prière plut à Dieu. Cette prière plut à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est que, au cours du temps, le don qu'il a reçu, la sagesse qu'il a reçue de Dieu, il a utilisé pour les autres et il s'est exclu lui-même de cela. C'est ce qui arrive aussi à beaucoup où, vous savez, tu arrives à un niveau où tu es tellement, entre guillemets, parfait, c'est pas ça le bon terme, tu fais tellement d'exploits que tu en arrives à mépriser même les autres en disant, ah oui, mais oh, tel frère, oh là là, il est connu, hein, on sait qu'il est toujours tard, tel frère, tel. Bien-aimé, toutes ces petites choses-là, ça va diminuer l'amour de Dieu pour toi. Ça va baisser l'amour de Dieu pour toi. Donc, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas convertie, mais le but d'aujourd'hui, c'est de dire que rien n'est... La seule chose qui est acquise, que le Seigneur nous donne et qu'il garde, c'est le salut. Et encore, le salut, c'est à notre responsabilité d'accepter jusqu'au bout ou pas. Maintenant, l'amour pour la parole, l'amour pour Dieu, l'amour pour la prière, ce sont des choses qu'on doit cultiver, qu'on doit prier pour ça. Dieu va permettre par moment que ça manque. Le but, c'est quoi? C'est qu'on s'humilie, qu'on dise, Seigneur, ah, je reconnais que je suis nul. Je suis zéro, Seigneur. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de... C'est ça, Dieu lui-même le permettra pour qu'on puisse s'humilier. Et c'est ce que nous voulons dire. Donc, il y a une intervention là, mais c'est ce que nous voulons dire. C'est que, on va prendre l'exemple de Jésus, qui est le bon exemple, qui nous montre que, même étant fils de Dieu, il a été tenté par le diable, mais il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur le fait d'accepter qu'il était petit parce que le diable lui fait croire, lui dit, mais tu n'es rien du tout finalement. Si tu es le fils de Dieu, mais Jésus n'a rien à prouver. Donc je réponds à la personne en disant que nous devons tous les jours prier et faire cet examen-là en nous-mêmes en disant, Seigneur, aide-moi à t'aimer aujourd'hui plus qu'hier. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas acquis. On a vu David, on a vu Saül. Moi, je suis souvent étonné de l'histoire de Saül. Quand on parle de Saül, on voit souvent sa fin malheureuse. Mais regardez le début de Saül. Saül, quand il commence en tant que roi, mais c'est un homme qui a un grand cœur. Un homme qui plaît à Dieu. Un homme bon. Mais, vous savez, tu t'installes au pouvoir, on le voit avec les dirigeants parfois, hein. Beaucoup en Afrique, mais c'est dans l'homme. L'homme est comme ça partout. C'est que ici en Europe, la loi voilà, limite les mandats. Mais vous savez, il y a des gens qui ont pris le pouvoir en se disant, moi je viens, je prends le pouvoir pour faire du bien à mon peuple. Et ensuite je laisse. Ah, mais le problème c'est que c'est beaucoup plus compliqué après. Quand tu goûtes au pouvoir, tu goûtes à... tout ce qui est autour du pouvoir, ah, je peux te dire que celui qui était là pour un an, il se retrouve là pendant 18 ans. Donc c'est une réalité. Tout ça pour nous dire qu'on a beau être chrétien, mais on doit... Le bon exemple, c'est Éphésiens 2 qu'on a lu, où le Seigneur dit, je te connais. Je connais ton amour, je connais ta persévérance, je connais comment tu as souffert pour mon nom. C'est le Seigneur qui... Voilà le bon exemple. Voilà. Parce que Jésus ne va pas parler d'une église comme ça si elle est fausse. Mais en plus, le Seigneur lui-même dit, tu as perdu. C'est-à-dire qu'il avait cet amour-là à un moment, mais le train-train quotidien, la religiosité, les activités, la stabilité, toutes ces choses-là contribuent finalement à baisser notre amour parce qu'on pense que bon, c'est nous qui maîtrisons les choses. Donc c'est vraiment ça, c'est pour ça que nous partageons ça ce soir, bien-aimés, pour nous dire que nous sommes tous concernés. L'état dans lequel tu es aujourd'hui ne garantit pas le lendemain.
Oui, donc deuxième question. Mais comment on mesure notre approchement de Dieu sans les œuvres? Jacques 2, 14 à 26 nous dit « Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Donc la question, mais comment on mesure notre rapprochement de Dieu sans les œuvres?
Comment? En priant. Premièrement. Deuxièmement, comment savoir? C'est que tout ce qui est lié à la chair, souvent, va dans le sens de nous glorifier nous-mêmes. Vous savez, la Bible dit, Ésaïe 42:8, Dieu dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai, on peut lire. » Ésaïe 42, on reviendra à... Donc c'est très simple. Comment connaître que ce qu'on fait là, ce n'est pas Dieu, c'est que la chair a son intérêt dedans. Quand la chair est glorifiée, et c'est ce que Satan va vouloir proposer à Jésus, Ésaïe 42:8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Voilà, c'est ça ce que Dieu dit. C'est-à-dire que quand quelque chose va dans le sens de te satisfaire, toi, repens-toi. Voilà. Ça peut être toi-même qui fais ce travail-là. Ça nous arrive, hein. Parfois, tu fais quelque chose, tu te surprends, tu dis « Ah bon ? J'ai réussi à faire ça ?» Et là, à ce moment-là, tu te repens, tu dis « Ah Seigneur, pardonne-moi. » Voilà. Parce que j'ai pris de ta gloire. C'est ça. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vient te complimenter. « Ah bon, j'ai entendu comment tu jouais. Il te fait des compliments. » Là, à ce moment-là, tu dois, comme on nous dit souvent, prendre ça, dire « Gloire à Dieu. Je refuse que ça reste à moi. » Donc, on saura toujours. Dieu est bon. Comme on a dit, Dieu va nous révéler toujours. Dieu va révéler nos motivations. Il va révéler ça par des situations. Comme il a dit à cette église-là, tu fais bien les choses, mais les motivations ne sont plus les bonnes. Alors, repens-toi. C'est ça. Vous savez, quand on parle de repentance vis-à-vis de Dieu, et c'est quelque chose que je méditais, c'est que souvent, on lit repentance à un péché qu'on a commis, une faute. Péché, c'est quoi ? C'est rater la cible, c'est faire une faute. C'est contrevenir à la loi de Dieu. Or, on doit comprendre la repentance par rapport aussi, je ne sais pas si je veux me faire comprendre, à la nature de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est tellement saint et pur que nous, notre chair, va toujours nous amener à faire quelque chose qui va à l'encontre de Dieu. Et dans ce sens-là, quand le Saint-Esprit nous convainc, on va se repentir. Je donne un exemple. Tu parles à quelqu'un. Tu reprends une personne, par exemple. Même si dans ce que tu dis à la personne, le fond est vrai. Mais Dieu peut te reprendre pour la forme. Pour te dire non, la forme n'est pas bonne parce que tu as humilié le frère. Parce que tu aurais pu le reprendre en tête à tête. Mais tu as mal fait les choses. Vous voyez un peu ces détails. C'est-à-dire que Dieu, c'est tout ça. Donc la repentance pour nous, ce n'est pas seulement j'ai péché, j'ai mal fait, et puis je demande pardon, j'ai giflé quelqu'un. Non, ça peut être même dans nos pensées, bien-aimés, je vais très loin. Vous savez, c'est ce que Jésus dit. Quand quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a fait quoi ? Il a péché. Donc, vous voyez que nous, le péché, c'est la consommation. Je gifle, je tape quelqu'un. Mais Dieu, lui, il va plus loin que ça. Il dit, le péché commence quand dans ta tête, tu commences, oh, lui, il m'énerve. Donc, déjà à ce moment-là, mais bien-aimé, il faut l'humilité. Parce que là, il n'y a pas de témoin. Le seul témoin, c'est qui ? C'est toi et Dieu. Il n'y a pas de témoin. Les gens qui te voient disent, oh, le frère, il est sage, le frère, il est vraiment... Mais ça, c'est ce que les gens voient. Mais Dieu, lui, en tête à tête, seul à seul, lui, il a vu autre chose. Et ça nécessite de l'humilité pour se repentir, pour dire, Seigneur, je demande pardon parce que, en ce moment, j'ai des mauvais sentiments. En ce moment, il y a... Voilà, c'est ça. Donc, quand il dit à cette église, repends-toi, c'est vraiment dans cet esprit-là. Donc, le Saint-Esprit nous parle et Dieu nous parle. Et le but d'aujourd'hui, c'est de faire cette pause pour revoir nos motivations, dire, Seigneur, je veux aujourd'hui un nouveau départ. Nous lisons, donc, il y a une intervention, oui, pardon.
C'est quoi aller en profondeur avec Dieu ?
C'est quoi aller en profondeur ? C'est connaître Jésus, c'est chercher à imiter Jésus tous les jours. Dans tout ce que tu fais, tu te poses la question, est-ce que Jésus à ma place aurait fait ça ?
Ok.
Donc c'est l'objectif pour nous tous, Luc 6:40, c'est tout disciple accompli sera comme le maître. Donc c'est ça. Donc nous lisons. Donc on parlait tout à l'heure, la sœur Geneviève parlait d'intérêt personnel. L'apôtre Paul parle dans plusieurs passages où il dit que certains cherchent des querelles, certains travaillent pour leur ventre. Et on voit ici là où Satan veut pousser Jésus. Luc 4 ou Matthieu 4, on va lire dans Matthieu. Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je voudrais dire quelque chose. Vous voyez, ce que Satan vient dire à Jésus là, c'est un défi. Satan vient défier Jésus. Mais vous savez, il y a un terme qu'on utilise pour Dieu. C'est un terme un peu compliqué. Longanimité, c'est-à-dire, c'est la capacité qu'a une personne d'agir dans une situation, mais il se laisse faire. Et c'est ça que Jésus éprouve là. Quand quelqu'un vient te dire, pour dire, bon, si tu es riche, achète la mairie de Grand Corne. Mais si toi, tu n'es pas riche, non, je ne peux pas. Mais si tu as les moyens de le faire, quelqu'un vient te défier, je peux te dire que c'est différent, c'est pas la même chose, parce que tu as les moyens. Pour fermer la bouche, excusez-moi le terme, de l'autre, tu vas dire, bon, allez, je signe, allez, j'achète. Et Jésus, à ce moment-là, il avait la capacité de le faire. Mais il ne le fait pas parce qu'il n'a pas à répondre à Satan. Il n'a pas à tomber dans le piège de Satan. Il n'a pas à répondre à l'injonction de Satan qui mène la danse. Vous savez, c'est comme ça se passe aujourd'hui en politique. Souvent, c'est le Rassemblement national qui dicte les choses. Il trouve un sujet. Ah, c'est pas normal. Ah, tout le monde derrière le sujet. En fait, c'est comme si on t'impose un calendrier. Oh, c'est pas normal, telle personne, t'es pas normal. Et tout le monde prend le sujet, on parle que de ça. Et là, Satan vient pour mener la danse, voilà. Dire à Jésus, bon, je t'emmène dans telle direction. Jésus dit, non, ça marche pas comme ça. C'est pas toi qui me dis ce que moi je dois faire. Matthieu 4, Jésus lui répondit, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. J'ai oublié un point dans la première chose qu'il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne, transforme ces pierres en pain. Et voyez la réponse que Jésus donne, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le commentaire que je veux faire là, c'est que Jésus, comme je viens de le dire, avait la possibilité de le faire, la puissance de le faire. Mais Jésus n'utilise pas la puissance, l'autorité que Dieu lui donne pour satisfaire ses propres besoins. Je ne sais pas si on se comprend. Jésus n'utilise pas la puissance que Dieu lui donne pour satisfaire ses propres intérêts. Et là, nous sommes dans la question d'intérêt. Parce que, attention, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il avait faim. Il avait faim. Donc, il aurait pu assouvir son envie de manger à ce moment-là. Mais, vous voyez l'exemple du serviteur de Dieu qui ne cherche pas à se satisfaire lui, à se servir lui, mais qui cherche à faire la volonté de Dieu. Quitte à continuer à avoir faim. C'est ça, bien-aimés, les motivations que nous devons avoir. Ne pas regarder à nos propres intérêts à nous, mais regarder à l'intérêt du Seigneur. Là, il avait faim. Combien, bien-aimés ? Culte, quand c'est midi, on met Dieu dans une boîte. Hein. Ah, c'est moi d'abord. Hein. Il y en a qui jeûnent de 9h à midi. C'est déjà un bon début. Bien-aimés, ce sont des réalités. Et là, on voit que le Fils de Dieu accepte de se priver. Pourtant, il a la possibilité de le faire. Mais il accepte de se priver, lui. Parce que ce qui importe, on se rappelle dans Jean au chapitre 4, c'est un verset que j'aime beaucoup, Jean 4, 34, lorsque les disciples viennent voir Jésus pour lui dire « Maître, il voit Jésus en train de parler avec une femme, il dit « Maître, tu avais faim, regarde, nous t'apportons à manger. » Et le Seigneur a dit quoi à Jean 4, 34 ? Ma nourriture, il dit « J'ai une autre nourriture à manger. » Il rajoute « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Pourtant, il avait faim, il voulait manger. Il aurait pu faire une pause à ce moment et dire « Bon, allez, on s'arrête, on mange et puis après on va continuer à parler avec cette femme. » Non, bien-aimé, c'est cela. Combien sont comme des patrons, leur vie leur appartient. La vie n'appartient pas à Dieu. On est obligé de supplier, limite pour assister à une réunion, bien-aimé. Quelles sont les motivations de nos cœurs? Regardons le Seigneur et le diable continue. Verset 7, il lui dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne élevée, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores, retire-toi. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Vous voyez, dans tout ce que Satan propose à Jésus là, il propose quoi? Le succès. Il propose l'extraordinaire. Il dit, monte du haut du pinacle du temple, jette-toi. Les anges viendront te porter. Bien-aimé, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup, leur motivation, c'est produire du succès dans le travail de Dieu. Quand tu travailles et qu'il n'y a pas de résultat, entre guillemets, eh ben tu arrêtes, malheureusement. Il y en a qui prient, ils ne voient rien. Ben, il arrête de prier. Mais si tu arrêtes de prier parce que c'est le Seigneur qui t'a demandé d'arrêter, gloire à Dieu. Mais si tu arrêtes de prier parce que tu es découragé, ben dans ce cas, change de prière. Dis, Seigneur, vous savez, Anne priait aussi, la mère de Samuel. Elle priait. On dit qu'elle allait tous les jours au temple. Mais quelles étaient ses motivations? Ses motivations, c'était intérêt personnel. Prouver à Pénina, sa rivale, que moi aussi, je suis capable d'enfanter. Que moi aussi, je suis constitué comme une femme normale. Moi aussi, je peux devenir une mère. Bien-aimée, vous voyez les motivations. Pourtant, on nous dit quoi? Elle allait tous les jours au temple. Donc, les gens la voyaient, ils se disaient, oh là là, mais quelle femme qui aime Dieu. Quelle femme qui est attachée à Dieu. Mais en réalité, elle allait pour son propre intérêt à elle. Bien-aimé, Dieu va révéler nos cœurs. La situation va traîner. Il y a des gens qu'on connaît, tu sais, quand tu le vois à l'assemblée, tu sais que ce n'est pas de manière désintéressée. Vous voyez comme Satan a posé la question à Dieu, hein, concernant un serviteur de Dieu, lequel? Est-ce de manière désintéressée qu'il te sert? Il s'agit de qui? De Job. Est-ce de manière désintéressée? C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu le vois au culte, ah, tu sais qu'à la fin du culte, il va te bloquer parce qu'il a un problème. Bien-aimé, vous voyez, c'est triste. C'est malheureux. Il y a des gens, quand tu le vois, tu sais que ça chauffe. Soit c'est la maladie, soit c'est le couple, ça ne va pas. Soit il a besoin de... Je parlais avec un qui... Pareil, hein, quand tu le vois, tu sais que ah, il y a un problème. Il me dit, ah, il faut que tu viennes à la maison, on va faire des prières puissantes. En fait, dans sa tête, c'est comme si, quand on va aller chez lui, on va prier fort. Là, je lui dis, mais c'est pas ça. On peut prier à partir d'ici, mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, c'est pas un distributeur. On a déjà prié pour le sujet, la situation s'est arrangée, tu as disparu. La situation s'est dégradée, tu es revenu. On a repris encore, tu disparais. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu veut? Ce que le Seigneur veut, c'est ta conversion. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu prennes en compte tout ce qu'il fait quand il agit pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je m'engage, vous savez, comme Naaman. Il a vu ce miracle-là, il a dit, bon, le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. C'est ça. Voilà, c'est ça que Dieu veut. Dieu n'est pas un distributeur, mais quelqu'un comme ça, bon, non, on ne peut pas rejeter une personne qui t'appelle pour dire, bon, j'ai tel problème. Mais non, on va venir te visiter. On va te dire la même chose. Mais malheureusement, vous voyez le fonctionnement de l'homme, c'est ça. C'est l'intérêt. Quand ça ne va pas, on est là. Quand ça va, silence radio. C'est ça. Et Anne, elle priait par rapport à elle. Mais vous savez, le jour où elle a prié en disant, Seigneur, donne-moi un fils, je te le consacrerai. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit, ce jour-là, quand elle est sortie, son visage n'était plus le même. Bien-aimé, c'est cela. Dieu va permettre des situations pour voir les motivations de nos cœurs. Et parfois même, dans les choses que nous désirons, dans les choses pour lesquelles nous prions, Dieu veut le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il voit que nos motivations ne sont pas saines. Nos motivations ne sont pas bonnes. Vous voyez que Anne avait le désir d'avoir un enfant. Dieu avait le désir de lui donner un enfant. Mais dans les deux cas, il n'y avait pas les mêmes objectifs parce que Dieu, lui, il voulait un enfant pour diriger son peuple. Mais Anne, elle voulait un enfant pour montrer que je suis une femme qui peut enfanter aussi. Et c'était pas, voilà, ils n'étaient pas dans le même, dans la même façon de voir les choses. Donc Dieu a laissé comme ça pour que Anne revoie ses motivations pour dire non Seigneur, j'ai mal prié, j'ai mal fait. Seigneur, donne-moi un fils et il t'appartiendra. Voilà, à partir de là, Anne met Dieu dans l'histoire, dans l'affaire. Et c'est ça, bien-aimé, c'est comme ça que nous devons aussi réagir, avoir cette attitude-là. Dans tout ce que nous faisons, que la motivation première soit où est la gloire de Dieu dans l'histoire. En quoi Dieu sera glorifié dans l'histoire? Posons-nous cette question de manière sincère, honnête. Parce que Dieu peut permettre que il te donne quelque chose à faire, ça échoue. Comme on a dit tout à l'heure, là on a dit, dans l'intérêt personnel, il y a le besoin de s'enrichir, comme le diable propose à Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Il y a aussi le succès. Parfois, Dieu va te donner quelque chose à faire, mais qui ne réussit pas. Alors, on doit revenir à quoi? À se dire, à qui la gloire? À Dieu seul. Vous voyez, Jésus crucifié à la croix. Quelle honte! Devant les gens qui disent, mais c'est lui le Messie, c'est pas lui, c'est le Fils de Dieu, c'est pas lui, c'est lui le roi, il se dit le roi des Juifs, il se dit. Mais quelle honte! Mais qu'est-ce qui importe à ce moment-là? C'est la gloire de Dieu. C'est ça qui importe. Bien-aimé, quand on est dans ces dispositions-là, on va accepter qu'on te dise, tu n'as pas de puissance. Vous savez, quand le Seigneur parle à l'église de Philadelphie, il dit, tu as peu de puissance, mais tu n'as pas renié mon nom et tu as gardé la parole de la vérité, la parole de la persévérance. C'est ça, bien-aimé. Donc, humainement, tu vas paraître comme celui qui échoue. Mais, puisque c'est pour la gloire de Dieu, tu vas tenir. Et c'est ça, bien-aimé, que le Seigneur veut. Le Seigneur veut nous faire rentrer dans cela. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont dans la recherche de la bonne conscience. Nous lisons Luc 3, je vais expliquer. Luc 3, donc c'est Jean-Baptiste qui va nous expliquer ça. Donc il y a une foule qui vient voir Jean-Baptiste. Luc 3, à partir du verset 7. Luc 3, verset 7. Donc nous lisons. Donc Jean-Baptiste disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Alors, c'est curieux, lorsque je lis cette prédication de Jean-Baptiste, une foule qui vient à toi, bah, je pense que voilà, la sagesse voudrait que, mes bien-aimés, Dieu fait comme il veut. Vous voyez, des gens comme de Jean-Baptiste, c'est des gens qui n'avaient aucun intérêt. Sa motivation à lui, c'était annoncer, dire aux gens qu'ils doivent se repentir. Il n'avait pas d'intérêt personnel. Parce que quand tu parles comme ça, le risque, c'est quoi? C'est que la foule se fâche après toi. C'est que la foule se mette en colère. Ils se disent: attends, déjà, on est venu. Mais en plus, regarde comment tu nous parles. Vous voyez comment il parle, avec quelle virulence. Hein? Race de vipères. Donc, en quelque sorte, il dit: vous êtes sournois. Vous êtes hypocrite. Vous manifestez une certaine piété apparence en disant que vous voulez changer. Mais en vrai, c'est faux. Vous voulez rester les mêmes. Bien-aimés, vous voyez la prédication de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste est en train de dire à ces gens-là? Il dit: vous vous dites en vous-même, notre père c'est Abraham. Donc ça va. Donc là on est venu, on s'est réunis, on t'a écouté, donc c'est bon. Et Jean-Baptiste est en train de leur dire: non, c'est pas parce que vous accomplissez un devoir moral que finalement vous êtes agréable à Dieu. Bien aimé, c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens qui recherchent la bonne conscience tout simplement, qui apaisent leur conscience. Vous savez, ils viennent au culte le dimanche. Il y a des chrétiens du dimanche, hein, donc ils viennent quand ils parlent. Ah non, moi le dimanche, le matin, je suis à l'église. Hein. Mais c'est que le dimanche, quoi. Donc sa vie avec Dieu, c'est dimanche. Vous voyez, c'est vraiment le fonctionnement du catholicisme. Hein. Je me rappelle, nous, quand on était jeunes, parfois même, tu étais privé de manger si tu n'étais pas allé à la messe. Il fallait que tout le monde, donc, avec le costume du dimanche, a vraiment le cas de le dire, hein, parce que tout le monde était bien habillé, va à la messe, on revient, on mange un bon repas ensemble. Mais vous voyez, c'est cette conception. Finalement, tu te dis: bon, allez, toute la semaine, allez, c'est bon, la semaine m'appartient. Le dimanche, je donnerai une partie à Dieu. Bien-aimé, c'est ce que Jean-Baptiste déplore. Là, il dit: non, race de vipères, vous venez là pour vous donner bonne conscience, mais Dieu n'a que faire de cela. Et c'est ainsi que beaucoup se donnent bonne conscience. La motivation, c'est de se dire: bon, peut-être que comme je suis là, Dieu me fera grâce. Mais vous savez, Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Mais à quoi ça sert que Dieu te fasse grâce? Il est écrit dans Psaume 133 que quand les frères sont réunis ensemble, Dieu déverse sa bénédiction. Donc tout le monde en profite. Mais à quoi ça sert de recevoir la bénédiction de Dieu sans être changé soi-même? Matthieu 16, 26 nous dit: que servirait-il à l'homme de gagner le monde si son âme est perdue finalement? D'être béni, de profiter de grandes choses, de témoigner en disant: oui, j'étais témoin lorsque le frère a prié pour l'autre qui était aveugle, il a vu, j'étais là, mais oui. Mais pour toi, ça change quoi? En quoi cette chose t'a transformé? Et beaucoup bien aimé, vous voyez, Jean-Baptiste est dur parce que ces gens viennent accomplir un devoir moral. Mais sans changer. Vous vous rappelez l'autre fois quand les gens viennent voir Jésus pour lui dire: mais de quelle autorité tu fais ces choses? Jésus leur pose la question: mais oui, mais Jean, quand il faisait les choses, qui lui avait donné l'autorité? Alors ils se disent: ah, si on dit c'est de Dieu, il nous dira: ben, pourquoi vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste? Donc ces gens-là, ils savaient que Jean-Baptiste était un envoyé de Dieu. Mais vous voyez qu'ils n'avaient pas changé pour autant. Ils étaient là pour se donner bonne conscience. Parce que c'est un programme qui est là. Je viens, j'accomplis mon devoir, j'ai mon étiquette, ma carte de chrétien, vous voyez, comme dans les partis politiques, où chacun a sa carte d'adhérence socialiste ou républicain, tu as ta carte, tu fais tes cotisations. Et puis, non, mais bien-aimé, c'est pas ça, chrétien. Beaucoup, c'est juste pour te donner bonne conscience. Je suis là, je suis présent, je fais ce qu'on me demande de faire. Et le Seigneur ne veut pas cela, bien-aimé. Une autre motivation des humains, là, nous sommes vraiment dans les motivations négatives, c'est Matthieu 6, Jésus parle des pharisiens qui... Et des dirigeants, de manière générale, Matthieu 6, verset 1er, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » On peut s'arrêter là. Bien-aimés, vous voyez que ça, c'est une motivation aussi pour les humains. Être vu. Il y a des gens qui font des choses pour être vus. Qu'on les voit. Et quand il fait une action, surtout aujourd'hui à l'ère d'Internet, avec les drones, avec les smartphones, avec les, tout ce qu'on a comme moyen aujourd'hui, quand quelqu'un fait une action, parfois même il y a des directs, hein, il y a des, parfois des, sur Instagram ou Facebook, ou je ne sais pas, il y a un direct qui passe en même temps sur YouTube. Pour être... vu des hommes, mais voyez ce que le Seigneur a dit. Il dit, en faisant les choses comme ça, vous n'aurez pas de récompense de Dieu parce que votre récompense, vous l'avez déjà eue. Et bon, beaucoup font les choses pour être vus. Mais bien aimé, quand on parle de ça, on ne parle pas seulement des grands bishops. De... Non, nous aussi, à notre petite échelle, peut-être que, regarde en toi-même, peut-être que tu fais les choses pour être vu. Vu comme celui qui fait bien les choses. Vu comme celui qui est sérieux, vu, considéré comme celui qui est rigoureux. Mais bien aimé, un jour, le Seigneur permettra que personne ne te voie. Le Seigneur permettra ça. Tu es ici, on a vu un ici, là, grand bishop à Rouen, pignon sur rue. Bien-aimé, tu vas te retrouver à New York, là-bas où il y a des bishops qui ont des jets privés. Toi, tu arrives, on te dit, monsieur, vous êtes qui? Vous attendez là. Donc, c'est-à-dire que ici à Paris, tu es parmi les grands, les connus. Mais tu vas arriver dans un endroit où il y a des bishops qui mangent avec Bush ou avec l'actuel président Biden. Donc, toi, tu arrives, on te demande, vous êtes qui, monsieur? Mettez-vous à côté. On va voir votre cas après. On laisse d'abord. Bien aimé, c'est ça. Le Seigneur permettra qu'il y ait plus grand que toi. C'est cela, bien aimé. Ne faisons pas des choses, bien aimé, pour être vu. Quand on dit vu, c'est bien sûr que les gens te voient, mais c'est aussi recevoir une récompense, une reconnaissance des humains. C'est pas ça, bien aimé. C'est pas ça. Moi, je vois au travail, parfois, vous savez, on écrit beaucoup, on fait des transmissions de la journée, de ce qui s'est passé. Et parfois, en fonction du collègue avec qui tu travailles, lorsqu'il se passe un incident, le collègue prend le téléphone, il appelle le chef de service, peu importe l'heure. Hein. Ah ben, j'ai géré la situation, hein, le jeune, je l'ai maîtrisé. Et une fois, j'étais avec un collègue qui s'est mis en colère. Il dit, mais c'est pas possible, mais il n'est pas tout seul. Comment il peut dire? Je lui dis, mais... écoute, tu sais, le chef, il n'est pas dupe non plus. Mais vous savez, il y a des gens qui aiment passer devant le chef par rapport au chef vis-à-vis de ce, comme celui qui fait tout le travail. Oh, l'autre collègue était en colère, mais il n'est pas tout seul. Et même quand on fait les transmissions, c'est j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai appelé le cadre, j'ai appelé l'astreinte. Et le collègue se fait connaître, mais il faut mettre nous, ce n'est pas je. Tu n'as pas fait tout seul. Mais bien aimé, il y a des gens comme ça qui ont besoin de cette reconnaissance-là. Il appelle le chef à côté pour dire, bon, j'ai géré la situation, heureusement que j'étais là. Hein. Donc, il ne parle pas de l'autre, mais, bien-aimé, nous sommes adultes. Tu comprends implicitement que si l'autre était seul, ça aurait été le dégât. Bien-aimé, il y a des gens comme ça. Et vous savez, tu vas tomber sur un chef Ah bon? Ah oui, d'accord. Mais le jour où il va te saquer, moi je connais un, le collègue qui cherchait tout le temps l'approbation, qui cherchait tout le temps. Le chef semblait aller dans son sens, mais bien aimé, le jour où il a fallu prendre des mesures, les mesures sont tombées, mais voilà, retour de médaille, bien aimé, c'est ça. Ne pas faire des choses pour être vu. Nous, on fait des choses parce que c'est le Seigneur. Il y a des chrétiens, il va faire quelque chose, il va appeler tout le monde pour dire « Ah, vous avez vu le travail là, c'est moi qui ai fait. Hein. C'est moi qui ai fait ce travail là. Ah, le Seigneur m'a béni pour le faire. » Mais oui, mais tu as fait gloire à Dieu. Reste anonyme. Reste dans l'ombre. À Jésus-Christ soit la gloire. Nous lisons Luc 21. Luc 21. Verset 1er. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? Une femme vient mettre deux petites pièces. Et les autres, les gens qui ont plus de moyens viennent, vous savez, défiler. Et bien évidemment, chacun avec son intérêt. Vous savez, au moment des offrandes, il y a des gens, lui, il a mis ses vêtements. C'est l'occasion. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Tant des offrandes, comme c'est un sapologue, il attend pour passer devant, faire les 500 mètres là, comme ça les gens, parce que quand tu es assis, personne ne te voit. Mais quand tu te lèves là, donc finalement, ton but, c'est même pas de donner. Ton but, c'est qu'on voit que tu as donné. Qu'on te voit. Et là, Jésus dit, vous voyez, cette femme a donné plus que tous les autres. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et les autres, ils ont donné. Mais c'est du superflu. C'est du tape à l'œil. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. En fait, ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, bien-aimés, c'est que cette femme-là s'est contentée de sa relation avec Dieu. Non pas du regard des humains. Combien ne font pas des choses, n'osent pas faire des choses parce qu'ils se disent « je ne suis pas à la hauteur » parce que l'autre a essayé, il a réussi, mais moi je ne suis pas sûr de réussir, alors je ne fais pas. Mais il y en a beaucoup comme ça. Je n'ose pas passer mon permis parce que ah, moi, c'est trop dur, alors je préfère ne pas essayer. Parce que sinon, il y a des moqueurs autour de moi. Cette femme n'a pas regardé à ce que pensaient les autres. Ce qu'elle avait, elle a donné. Finalement, l'enseignement, c'est quoi ici que le Seigneur nous donne? C'est que ce n'est pas la quantité qui importe au Seigneur. Parce que la Bible dit dans Agée que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il dit dans Ésaïe, mais si même j'avais faim, dans le psaume aussi, si j'avais faim, Dieu dit, tu penses que c'est à toi que j'aurais demandé à manger? Mais les taureaux, les brebis, les boucs, tout cela, ça m'appartient. Donc Dieu n'a pas besoin de ça. Donc ce qui importe à Dieu, ce n'est pas la quantité. Ce qui importe à Dieu, c'est la qualité de ce qu'on donne. Est-ce qu'il y a un esprit de sacrifice dans ce que tu donnes? C'est ça qui importe à Dieu. Jusqu'à quel point tu es prêt? Parce que vous voyez, cette femme, tout ce qu'elle donne, le Seigneur Jésus dit, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc finalement, c'est sa vie qu'elle a donnée au Seigneur. Elle a donné sa vie. Et c'est ça qui importe à Dieu, bien-aimé. Quelles sont les motivations de nos cœurs? Tu donnes de ton temps à Dieu? Mais ton temps, c'est peut-être que du superflu. C'est peut-être que du superflu. de 18h à 20h. Qu'est-ce que ça représente sur une journée? On est d'accord, c'est déjà bien parce que tu as donné au moins ça à Dieu. Mais oui, mais penser que c'est bon, j'ai... Mais c'est... Non. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on aille plus loin, qu'on grandisse dans l'amour pour lui. Et quand on grandit dans l'amour pour lui, on ne compte pas. Vous savez, c'est la phrase qu'ils disent dans le monde. Hein. Quand on aime, on ne compte pas. Il y a des gens qui disent, mais vous faites beaucoup d'activités. Vous voyez, là, on va finir là. Réunion Zoom après. Après encore, il y a des... Mais, je vais dire, attends, mais j'ai une vie privée. En fait, dans ta tête, tu t'es dit, bon, moi, je donne 18h à 20h à Dieu, et puis c'est bon. Dieu, maintenant, ça sera demain. Mais imagine que Dieu fasse une pause aussi dans ta vie. Pendant que tu dors là, apnée. Bien-aimé, entrons dans cela. Dieu doit être tout pour nous. Dieu, c'est pas un peu. Et Jésus dit, ces autres ont donné. Mais c'est du superflu, c'est du m'as-tu vu. Les gens voient qu'ils ont donné. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu attend. Et c'est ça que le Seigneur aussi nous pose comme question aujourd'hui. Tu es là pour qu'on voit que tu es venu. Tu es là peut-être parce que tu as pitié, tu dis, ah, si je ne viens pas, il n'y aura que deux personnes. Mais qu'il y ait deux personnes, mais gloire à Dieu! Ne viens pas parce que tu viens combler le vide. Viens parce que tu viens adorer Dieu. D'accord, on est d'accord. Ne viens pas par pitié. Bon, voilà, au moins que, comme il y aura la caméra, ça sera filmé, au moins que les gens voient qu'il y a du... Mais c'est pas ça. C'est pas ça la motivation. Moi, je viens parce que je veux donner ma vie à Dieu. Je viens parce que je vais au rendez-vous avec mon Dieu. Je viens adorer mon Dieu. Je viens recevoir la parole de mon Dieu. Et là, les dispositions sont différentes. C'est ça qui importe pour Dieu. Où est le sens du sacrifice dans ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un sacrifice? C'est ça que le Seigneur est en train de dire là. Cette femme a donné, ce qu'elle a donné impliquait un sacrifice. Dieu a tant aimé, Jean 3,16, tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Le véritable amour implique le sacrifice. Quand il n'y a que du confort, bien-aimé, posons-nous la question, où est Dieu dans l'histoire là? Où est Dieu? Le véritable amour pour Dieu va nous impliquer qu'on perde quelque chose. Mais on le perd par amour pour Dieu. Et on le perd consciemment parce qu'on a décidé en disant, bon Seigneur, j'accepte. J'avais prévu 18h à 20h et puis autre chose derrière, mais le Seigneur peut permettre que au lieu de 18h à 20h, ce soit 18h à 21h. Accepte ça comme un sacrifice. Mais il y en a, il va être en colère. Oh là là, mais c'est pas sérieux. Mais qui n'est pas sérieux? Qui n'est pas sérieux? Ah non, moi j'avais prévu 18h à 20h, pas 18h à 21h. Quand tu es au travail, on te dit, bon allez, il y a une urgence, là on a besoin, allez, on va pousser. Tu vas le faire. Et quand c'est pour le Seigneur, oh non. C'est bon. Bien-aimé, c'est cela. Le véritable amour pour le Seigneur va impliquer un sacrifice. C'est ça que le Seigneur veut, que nous puissions nous donner totalement. Et quand on se sacrifie comme ça, on ne compte plus. Vous voyez quelqu'un comme l'apôtre Paul qui dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, 1 Timothée 1,15, que Jésus-Christ est mort pour tous les pécheurs, dont je suis le premier. Vous voyez, cet homme-là servait Dieu, comme ça a été dit tout à l'heure. Nous, on doit servir Dieu par reconnaissance. C'est comme si il estimait qu'il avait une dette envers le Seigneur. Et cette dette-là, il ne peut pas la payer, il ne peut pas la rembourser. Il est créditeur. Or, tous les humains sont créditeurs devant Dieu. Et on ne peut pas rembourser ça. Et Paul servait Dieu comme si il avait une dette. Il dit, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, moi, je les ajoute et je les achève dans ma propre chair. Bien-aimé, c'est ça. Il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir, m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il dit, je suis critiqué, on se moque de moi, les gens parlent, les gens... Il dit, peu importe ce que les gens peuvent dire, moi, ce qui m'importe, c'est que Jésus-Christ soit prêché. Bien-aimé, vous voyez quelqu'un qui a les véritables motivations pour le Seigneur. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, on se moque de moi, les gens. Il dit, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que même s'ils ne sont pas vrais, mais qu'ils parlent de Jésus, Jésus est tout puissant pour utiliser ces paroles-là pour amener les gens à la véritable conversion. C'est ça le désir de Paul. Alors la question aujourd'hui, bien-aimés, c'est quelles sont nos motivations quand nous approchons de Dieu? Revoyons nos motivations. Vous savez, un jour, les disciples voient quelqu'un qui chasse dans Marc 9 des démons au nom de Jésus. Vous savez ce qu'ils viennent dire à Jésus? Mais maître, mais c'est pas normal. Regarde cet homme-là. Il ose utiliser ton nom pour chasser les démons. Bien-aimés, vous voyez, ce sont les disciples de Jésus. Jésus dit, mais laissez-le tranquille. Il fait le même travail que nous. Les disciples de Jésus qui aiment Jésus, vous voyez la réaction qu'ils ont. Un jour, dans Marc 9, ils vont prêcher la parole. Les gens refusent de croire. Vous savez ce qu'ils disent au maître? Maître, fais descendre le feu pour que le feu le consume. Comme ça, ils vont voir qu'on ne blague pas. Mais oh, Jésus, oh, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Bien-aimé, c'est cela. Je prends tous ces exemples-là pour nous montrer qu'on peut être au service du Seigneur, mais avec des motivations liées à la chair, des motivations qui ne sont pas bonnes. Le Seigneur veut qu'on puisse l'aimer. C'est ça notre prière aujourd'hui, c'est dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à t'aimer. Fais que, Seigneur, tes pensées deviennent mes pensées. C'est ça notre prière aujourd'hui, bien-aimé. L'amour pour le Seigneur. Que nous puissions, comme l'apôtre Paul, vous savez, dans Éphésiens 6, il dit, priez pour moi pour que, quand j'annonce l'évangile, que je le fasse comme je dois le faire. Pensons-nous que Paul avait besoin, j'allais dire de prière, oui, on a besoin de prière pour le travail qu'on fait, mais je dis ça dans le sens où c'est pas comme si c'est quelqu'un qui manquait de quoi prêcher. Vous voyez la différence, il y a une nuance. Entre prier pour que Dieu me donne quelque chose, mais il savait de quoi parler, mais il avait des sujets, mais il dit, puisque les choses de Dieu sont spirituelles, sont élevées, sont grandes, ma connaissance à moi ne suffit pas. Alors, bien-aimé, priez pour moi pour que, quand j'ouvre la bouche, que Dieu fasse son œuvre. Bien-aimé, vous voyez quelqu'un qui a les motivations du Seigneur. Il ne va pas faire les choses parce qu'il sait les faire, mais il va les faire parce qu'il estime que c'est un instrument que Dieu utilise. Alors, il va dire, Seigneur, aide-moi. Je ne fais pas parce que je sais faire, mais je fais parce que je t'obéis à toi. Alors, donne-moi la force, donne-moi les paroles qu'il faut pour dire ce qui convient de dire. Bien-aimé, voilà quelqu'un qui a les motivations du Seigneur. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Il y a beaucoup de choses à dire. On a dit une partie, une toute petite partie, mais que notre prière soit le psaume 139, 23, 24. David dit, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Toi qui connais mes pensées, éprouve-moi et ramène-moi sur la voie de la vérité de l'éternité. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Nous avons besoin de toi aujourd'hui encore. Seigneur, tu vois notre chair qui cherche son propre intérêt, Seigneur. Tu vois notre chair qui cherche son propre succès. Notre chair qui cherche sa propre reconnaissance, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à revoir nos motivations aujourd'hui. Lorsque nous venons, Seigneur, dans les réunions, que nous ne venons pas parce que nous sommes des intervenants, nous travaillons, mais que nous venions parce que nous venons t'adorer. Change notre conception, Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 18, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Que notre souci à nous, Seigneur, c'est que tu sois présent. Si on est deux ou trois, ça suffit. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à intégrer cela. Purifie nos cœurs, Seigneur. Seigneur, change nos cœurs, nos motivations. Comme ça a été dit, Seigneur, à la question qui a été posée, que notre amour aujourd'hui, Seigneur, ne s'arrête pas aujourd'hui, que notre amour pour toi grandisse, Seigneur, que chaque jour, nous puissions désirer t'aimer, Seigneur. Nous avons vu que cette église d'Éphèse s'est refroidie à un moment donné. Peut-être qu'elle ne s'en est pas rendue compte, mais toi, tu lui as rappelé cela, Seigneur. Vois nos motivations, Seigneur. Purifie-nous. Au nom de Jésus-Christ, à toi la gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse.